La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Trois invités ce soir encore pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Bienvenue à Pauline Albouy-Pomponne, élue municipale à Lavaur, référente Occitanie du parti Place Publique. Bienvenue aussi à Mohamed Mafri, ex-adjoint au maire de Blagnac, président du think tank Blagnac Politique Café. Et bienvenue enfin à Jean-Baptiste de Scorail, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Merci à tous les trois d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée de l'info. La semaine dernière, nous avions évoqué le déplacement de Gérald Darmanin à Alger. Eh bien, c'est encore une fois le ministre de la Justice qui nous offre le premier sujet de cette émission. Dans un entretien récent accordé au Journal du Dimanche en fin de semaine dernière, le garde des Sceaux a proposé un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale. Il considère que notre pays est arrivé, je le cite, à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation, et qu'il faut mettre fin à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. Gérald Darmanin a d'autre part estimé que cette question devra être tranchée à la prochaine présidentielle. Comment avez-vous réagi, pour votre part, à la proposition du ministre de la Justice et aux arguments qu'il a avancés pour la justifier? Et pensez-vous, comme lui, que le sujet migratoire sera l'une des principales questions qui se posent d'ores et déjà aux candidats de la présidentielle de 2027? Je donne la parole à Pauline Albouy-Pomponne.
Merci, bonsoir à toutes et tous. Alors, Gérald Darmanin, il a besoin d'exister, il s'exprime assez régulièrement. Et ce sujet de l'immigration, pour une fois, je suis d'accord avec lui, c'est un sujet qu'il faut aborder et qu'il ne faut surtout pas laisser aux voix, avec un X, de l'extrême droite, et qu'on l'aborde avec notre bagage culturel français. La France est une terre d'exil, une terre d'accueil, c'est le pays des droits de l'homme. Et nous sommes nombreux à nous être construits par une filiation qui venait de l'étranger, qu'elle vienne de l'ouest, de l'est, du sud ou du nord. Donc c'est vraiment pour moi fondamental que les Français se réconcilient avec ce thème de l'immigration. Et oui, ça doit être un thème de la présidentielle, mais ça ne doit pas être un thème populiste pour détruire et diviser, mais être vraiment une thématique qui cherche à rassembler les Français, à se questionner sur quelle est notre citoyenneté. Ça veut dire quoi être français, ça veut dire quoi accueillir et intégrer des immigrés, parce que j'imagine qu'on reviendra sur est-ce qu'on en a besoin ou pas, etc.
Bien sûr.
Mais oui, pour moi, ce thème, il doit être abordé avec des valeurs humanistes de gauche.
Et sur la proposition avancée par Gérald Darmanin d'un moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, pour vous, c'est quelque chose qu'on peut discuter ou c'est d'emblée,
alors, moi,
c'est niet?
Moi, vous savez, je travaille beaucoup auprès des hôpitaux. Notre système de santé, il ne tient pas si on n'a pas d'immigration. Le système de santé dans les Outre-mer, il repose sur des médecins immigrés, il repose sur des soignants, sur des agents d'entretien immigrés. Nos hôpitaux, nos petits hôpitaux périphériques en Occitanie, que je connais bien, ils ont aussi une grande part de leur population qui est immigrée. Notre système agricole repose sur de la main-d'œuvre immigrée. Il y a plein de pans, un pan que je connais un peu moins, qui est le BTP. Il y a plein de pans très, très importants de notre économie qui reposent là-dessus, par les restaurateurs, enfin voilà. On a besoin d'intégrer. C'est le moteur de l'intégration qui est cassé aujourd'hui. C'est le moteur de l'intégration. On pourra y revenir.
Oui. Voilà. Mohamed Mafri.
Bonsoir.
Alors, sur la proposition d'abord de Gérald Darmanin, ce moratoire de 3 ans sur l'immigration légale, et puis sur
sur le sujet qui est très très intéressant, qui est pas nouveau, tout simplement l'immigration, les politiques migratoires, ce sujet-là, lorsque ça sent la campagne présidentielle arrivée, donc voilà, depuis les années 80, moi je suis un enfant des années 80, depuis la période Mitterrand et toutes les échéances présidentielles, on a vu ce sujet revenir et être d'actualité, mais malheureusement pas traité sur le fond. Toujours instrumentalisé à droite comme à gauche. Voilà, je tiens à le dire aussi. Voilà, vous parliez tout à l'heure que ce soit pas monopolisé par l'extrême droite. Je souhaite pas non plus que ce soit pas monopolisé par l'extrême gauche, ce sujet. Ensuite, Gérald Darmanin, et je suis d'accord avec ma collègue, c'est quand même un homme politique qui a beaucoup d'expérience, qui a de l'ambition, et c'est pour moi, c'est pas une tare. Il est sur un schéma politique où il s'apprête, à, en tout cas aujourd'hui, à être un soutien d'Édouard Philippe, avec comme adversaire Gabriel Attal, et plus à droite,
Bruno Retailleau,
qui, on va le voir le long de l'émission, et j'espère qu'on l'argumentera, notamment avec le dossier algérien, et son lieutenant Laurent Nunez, au ministère de l'Intérieur, isole. Tout doucement, monsieur voudra en tout cas isoler, on verra les ripostes de monsieur Retailleau sur ce sujet. Voilà, pour revenir sur l'esprit de monsieur Darmanin, qui quand même, voilà, si on reprend son histoire quand même, qui est sur les territoires du Nord, sur des territoires compliqués au niveau des élections, hein, où le RN est très implanté, où habilement il a su aussi jouer de son histoire. C'est Moussa, son second prénom.
Oui.
Voilà, hein, un enfant aussi de l'immigration.
Il le met en avant parfois.
Et voilà. Et moi, j'aurais aimé dire à M. Darmanin, j'ai presque envie de lui dire, trop prétentieux pour donner le son, je ne pourrais pas, mais quand même, utiliser l'immigration comme dans les postures précédentes, comme l'ont fait Jacques Chirac, comme l'ont fait Nicolas Sarkozy, avec le Karcher, avec le Brie Lhodeur, etc., etc., on a bien vu les résultats. Au bout du bout, ça ne paie pas. Voilà. Et alors que le sujet en profondeur, je reprendrai quelques arguments de ma collègue. En effet, sans l'immigration, sur de nombreux secteurs, on pourrait presque avoir un chômage technique des restaurants métropolitains. Si vous faites toutes les cuisines des restaurants métropolitains, vous n'êtes pas servi, et qu'il n'y a pas d'immigration, vous n'êtes pas servi. Voilà, tout simplement. Et beaucoup d'autres nids, qu'elles soient maghrébines, africaines, ou qu'elles soient aussi indiennes ou autres, etc., dans toutes les cuisines, voilà, vous avez ce sujet-là. Maintenant, ce sujet de migration, pour moi, j'ai presque envie d'envoyer comme message, mais pourquoi, M. Darmanin, vous qui avez cette histoire-là, vous n'êtes pas capable d'optimiser ce sujet-là, tout en utilisant aussi, c'est le ministère des Gardes des Sceaux, le ministère de la Justice, aussi une vision de coopération internationale. Sur la partie santé et médicale, moi, ce qui me déplaît énormément, c'est d'aller chercher aussi les médecins, etc., dans des pays en développement, ou alors qu'il y aurait... Pour quelqu'un qui, pour moi, a une ambition présidentielle, j'aurais quand même aimé travailler, entendre une coopération internationale. La santé, c'est le bien de tous. Et des plus pauvres, en priorité. Lorsqu'on se dit humaniste et aussi de droite, il n'y a aucun souci par rapport à ça pour moi, mais avec une vertu sociale. Voilà, donc ce sujet-là, on voit d'un côté Gérard Darmanin qui, lui, va avoir la pression, en fait, du Rassemblement National qui, lui, ne bouge pas dans ses postures. Et donc on voit tout le monde qui va un petit peu courir derrière l'échalote et voir un petit peu comment se dissocier du RN tout en étant n'utilisant pas ce sujet-là comme un sujet prioritaire, parce que pour moi personnellement il ne le sera pas prioritaire. Je pense qu'à mon avis et on l'a vu au municipal, mon collègue élu toulousain qui est à ma gauche, je peux vous garantir que on attendait un RN à plus de 10%, on a vu que c'est un RN à 2-3% qui était là sur Toulouse. Voilà, donc dans notre ville c'est pareil, le RN s'est implanté sur les territoires historiquement qui avançaient et dont on savait très bien qu'ils allaient avancer, je parle du Tarn, du Tarn-et-Garonne ou autre, etc. Bon bref, voilà. Voilà globalement ma première réflexion. Oui, il faut parler des politiques migratoires. Oui, il faut parler de l'immigration. Mais il faut le parler aussi avec des sujets valorisants, des sujets aussi de fermeté aussi. Mais tout en ayant une vision aussi pragmatique. Sans l'immigration, comme disait ma collègue, sur certains pans de métier, vous êtes en difficulté. C'est pas moi qui le dis, c'est le MEDEF.
Oui. Jean-Baptiste Scorail, après ces deux premières interventions, alors je rappelle que Gérald Darmanin est issu de votre camp, puisqu'il a longtemps été chez les LR.
Il est issu de notre camp, enfin il est parti. Bon, enfin je vais pas trop être méchant avec lui, mais bon, bonjour à tous en tout cas. Je suis très heureux de revenir ici à la Mêlée de l'Info, c'est la première fois depuis ma réélection.
Il y a eu la campagne.
Et c'est vrai que je suis très heureux d'être avec vous tous. Alors, je vais être méchant, je vais attaquer fort, que ce soit pour Pauline ou Mohamed, mais ils ont rien compris. Vous n'avez rien compris. Le Front National n'est plus le leader sur les problèmes, le Rassemblement National, vous voyez, j'en suis même là, sur les sujets de l'immigration. Le sujet de l'immigration est le sujet de tout le monde. C'est plus le Rassemblement National qui doit dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Oui, enfin bon, je crois que maintenant c'est un problème réel. que l'on voit partout. Et effectivement, quand Gérald Darmanin parle de moratoire, je ne sais pas s'il faut un moratoire, parce que effectivement, je crois qu'il faut déjà qu'on arrive à intégrer les gens qui sont là, que peut-être on les forme de telle manière à ce qu'ils arrivent à prendre ou à travailler dans des organismes qui manquent d'emplois. Donc ça, déjà, ça serait bien qu'on le fasse, on ne le fait pas. D'autre part, effectivement, un moratoire, bon, ça va nous amener à quoi? Bon, surtout, il faut qu'on arrive quand même à mettre ce sujet de manière importante. Alors, on ne va pas encore le charger sur la présidentielle. C'est un sujet qui est extrêmement important. Personne ne prend à bout de bras. Alors, peut-être le Rassemblement national en a parlé pendant des années et des années, mais ils n'ont pas donné de solution. Et je crois qu'il va falloir quand même qu'on mette tout ça à plat, de telle manière à ce que on arrive à avoir une immigration choisie, dans laquelle, effectivement, on puisse avoir et récupérer des gens qui ont envie de s'intégrer en France et qui ont envie aussi d'apporter leur savoir dans notre pays. Mais avant tout ça, il faut travailler sur l'intégration de nos propres, je dirais, immigrés qui sont en place depuis des années. Et je crois qu'il y a un certain nombre de réformes à faire, dont moi j'étais un soutien de Valéry Giscard d'Estaing. Et à l'époque, Mohamed a gagné avec François Mitterrand, moi j'ai perdu avec Valéry Giscard d'Estaing. Et Valéry Giscard d'Estaing a été, malheureusement, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais la cause de tout ce mal avec le regroupement familial. Et je crois qu'il y a un moment où il va falloir quand même qu'on réfléchisse, qu'on mette à plat et qu'on parle sérieusement de ce problème pour éviter que ce soit les extrêmes qui s'en chargent.
Alors c'est intéressant parce que vous avez utilisé deux mots, deux expressions, intégration, regroupement familial, qu'a évoqué également Gérald Darmanin. Alors sur un de ses constats, quand il dit que notre pays est arrivé à la limite de ses capacités d'intégration et d'assimilation, est-ce que ça vous paraît un constat réel ou un constat qui est contestable et qu'il faut vraiment nuancer? Pauline Alboui-Pomponne. Parce qu'il a été très abrupt sur le coup.
Je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les moteurs, j'ai dit le moteur, mais en fait c'est les moteurs de l'intégration sont aujourd'hui cassés. Le premier moteur,
oui, mais
c'est...
Il parle de limite des capacités d'intégration. Il ne parle pas de... des moyens d'intégration, on dit que bah, nous sommes aux limites.
Les capacités sont aussi à la mesure des moyens qu'on y met. On a une école publique, par exemple, qui est en grande souffrance. J'ai énormément de respect, j'ai une lignée familiale dans l'éducation nationale, énormément d'amis qui travaillent dessus, qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a besoin de réinventer un certain nombre de choses pour que notre école avance et qu'elle moi, j'en veux énormément à Emmanuel Macron et ça a commencé dès la RGPP à Nicolas Sarkozy. Désolé. Hein.
Je suis d'accord avec vous. Je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas fait ce qu'il fallait faire au moment où il a été
élu. Mais la machine est quelque part cassée. On a des enseignants qui sont payés 17% de moins que sur les autres pays européens. On a des nombres d'enfants par classe qui sont aussi beaucoup plus forts que les autres pays. On a des conditions d'apprentissage qui sont aujourd'hui à canicule, parlez à vos enseignants sur vos communes, dans les écoles, comment ils vivent ça, dans les collèges. On a à revaloriser notre école publique pour qu'elle redevienne un vecteur d'intégration parce qu'aujourd'hui, ça s'est ségrégué. Le privé est en plein boom. Les gens qui choisissent le privé, qui ont les moyens de le choisir, continuent leur progression alors qu'on a... cette école publique qui est quand même celle qui nous rassemble et qui nous met tous autour de la même table, qui nous permet de construire notre culture de citoyen français, pour moi, c'est le premier moteur qu'il faut réparer. Le deuxième moteur, c'est que avant il y avait quelque chose qui s'appelait le service militaire. Moi, je suis pas très fanat de l'armée. Mais c'était un outil qui permettait de décloisonner la société et qui permettait... Alors, c'était limité aux hommes. Alors, je dis... Ce n'est pas un outil parfait, mais c'est un outil...
C'est une autre époque.
Qui, voilà. C'est un outil qui permettait de construire quelque chose dans notre conscience de citoyen aussi. De citoyen, pour le coup, pas de citoyenne. Donc, il y a peut-être quelque chose à réinventer là-dessus, autour d'un service civique, par exemple, en tout cas, qui nous permette, chacun, de sortir de notre zone de confort, enfin, plutôt nos enfants, pour le coup, et de construire des ponts et des liens avec des gens qui ne nous ressemblent pas. parce que la peur aussi, c'est un gros sujet. Donc moi, je réparerai peut-être ces deux moteurs de l'intégration pour pouvoir au moins construire les bases, le référentiel de base, la capacité à travailler et à dialoguer.
Bon, donc pour vous, le constat de Gérald Darmanin est défaitiste. Il y a moyen, si on s'en donne les pouvoirs, évidemment, les moyens de réparer cet outil d'intégration. Alors, Mohamed Mafri.
Non, monsieur Scorail. C'est votre point auditif. Non, on n'est pas à côté de la plaque. Enfin, je ne me sens pas à côté de la plaque parce que, en plus, je pense qu'on va être d'accord sur plusieurs points. J'ai bien insisté, moi, sur l'extrême droite et l'extrême droite, ne pas laisser le monopole de ce sujet. On le laisse depuis des années. J'ai donné des argumentations tout à l'heure. À chaque fois, que ce soit d'un côté Nicolas Sarkozy ou François Hollande, dès qu'ils ont été investis, ils ont passé au mandat précédent, plus à travailler leur mandat en cours. Bon, voilà, c'est la maladie des politiques, parfois, etc. Si on prend Nicolas Sarkozy, c'était... alors qu'il avait fait une campagne... Même ses adversaires avaient avoué qu'il avait fait une campagne dynamique, combative, sur le pouvoir d'achat, d'ailleurs. Il avait siphonné le RN, etc. Il avait parlé de sécurité, rappelez-vous la phrase, voilà, terrible, Karcher, etc. Karcher, etc. Oui. Bon, on a vu le résultat. François Hollande, c'était pareil, les riches, etc., etc. Bon, on a vu aussi pareil. Voilà, et l'enfant Mitterrand que je suis qui est déçu avec en vieillissant. Par contre, la politique, en effet, l'immigration et les politiques migratoires doivent être étudiées aussi. Et là, c'est un sujet sur lequel j'en veux beaucoup à la gauche qui n'est pas capable de défendre les valeurs de la République, qui ont été abandonnées. J'en veux un exemple assez simple, le film de Samuel Paty. Voilà, l'abandon. Quand on voit des journaux, et puis même des syndicats d'enseignants, etc., qui se permettent d'aller dire « mais non, mais c'est stigmatisant, c'est raciste, c'est etc., c'est etc. », alors que les faits sont là et qu'on a vu un dysfonctionnement de l'intégration, mais pas de tous les immigrés. Encore une fois, il faut aussi poser les choses sur la table. À partir de là, il faut poser des dispositifs et des outils. Beaucoup avaient parlé du système danois. Avec au moins de l'intégration, l'obligation d'apprendre le français, l'obligation de maîtriser un petit peu certains éléments culturels, etc., tout en ne reniant pas leur histoire, mais aussi en respectant aussi, voilà. Et ce n'est pas raciste de dire cela ou quoi que ce soit, sauf que, j'ose le dire, si vous permettez vous d'exprimer comme ça, vous pouvez être taxé de raciste. Alors, j'utilise mon prénom presque Mohamed pour pouvoir l'évoquer et pouvoir déverrouiller la situation, mais je pense que là, sur la campagne présidentielle, il va falloir aussi travailler ce sujet-là, éviter que la politique migratoire ou l'immigration soit associée aussi à l'insécurité. C'est ça qui plane aussi souvent, parfois, alors que dans la politique d'immigration, alors on l'a beaucoup critiqué, mais il y a beaucoup de réussite aussi. Beaucoup. Et si je prends deux exemples, quand vous m'invitez, il y a deux exemples moi, qui me sautent aux yeux. L'équipe de Montpellier de rugby, qui vient de gagner la Coupe d'Europe de rugby, avec à sa tête un certain Moued Altrad, un bédouin du Série qui vient en France avec des bourses étudiantes. Et on connaît la suite. L'un des hommes les plus riches de France. Voilà. Je ne vous parle pas, et on l'aime ou l'aime pas, mais du président du Racing Club de Toulon, Mourad Boudjelal. Alors on peut ne pas l'aimer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait passer du subjectif, c'est la personnalité. Mais par contre, dans son histoire, c'est un homme qui vient de Chicago. Chicago, c'est le Mirail XXL, hein, voilà, ou le Mirail tout court. Hein, voilà.
Ça a changé maintenant, c'est que c'était plus trop Chicago. Ils ont amélioré quand même.
Je parle de l'époque.
Ah oui, à l'époque, oui.
À l'époque,
oui,
oui, oui. À l'époque c'était du stup, des meurtres, de la prostitution, etc.
Qui était à Toulon, c'est
voilà,
vrai que...
Voilà, lui, enfant de 10 enfants, vivant dans un logement associatif, il raconte parfaitement son histoire. Une réussite dans la bande dessinée. Je prends ces exemples-là alors qu'il y en a tellement pléthore des policiers, dans toutes les catégories sociales de la fonction publique, des cadres, des sous-préfets, etc., etc. Et on ne sait pas le valoriser, ça. On ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je disais qu'en introduction, ce sujet-là, il est souvent instrumentalisé. Et au bout d'un moment, quand il est instrumentalisé, il fait l'affaire des extrêmes. Les deux extrêmes.
Mais alors, quand Gérald Darmanin dit que nous sommes arrivés aux limites de nos capacités d'intégration et d'assimilation, il débloque ou pas ?
Il pose un sujet et moi je trouve que dans les solutions, dans son constat, il est pas tout à fait juste. Voilà, il est pas dans la ligne de mire.
Le constat est abrupt.
Voilà, Moi j'aurais aimé qu'il parle de coopération internationale, notamment sur l'aspect santé. Ça m'irrite de voir qu'on pille les médecins. Voilà.
Jean-Baptiste Scorail, alors sur le constat de Gérald Darmanin.
Juste, ce qui m'exaspère, c'est qu'ils sont tous ministres depuis des années, depuis 25 ans,
sont manettes, c'est
et
vrai.
Que, quel que soit le parti, jamais on a mis l'ouvrage sur la table, et ça, ça commence à m'agacer. Je vais vous prendre un exemple précis qui m'étonne. Moi, j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire dans un village de Dordogne, de 150 habitants, qui votaient communistes jusqu'à il y a 10 ans, qui ont voté à 58% pour le Rassemblement national, alors qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'immigration dans leur village. Et quand vous leur posez la question, ils disent « oui, mais on a peur ».
On a peur que ça arrive chez nous.
Que ça arrive chez nous. Bon. C'est une question qui, m'interpelle. Alors, ce que l'on peut voir, effectivement, c'est que je crois qu'il faut aussi qu'on prenne des mesures fortes. C'est-à-dire que qu'on oblige aussi, cette guerre avec l'Algérie commence à être très pénible, mais il faut aussi qu'on oblige, qu'on arrive à intégrer notre immigration positive, mais qu'on soit aussi capable de faire respecter les lois françaises et refaire repartir l'émigration entre guillemets délinquante, parce que c'est un problème aussi réel. Et quand on veut renvoyer des délinquants dans des pays divers et variés, alors je vais parler de l'Algérie parce que c'est un sujet facile en ce moment, on nous dit non et on bloque. Donc il y a un moment aussi, il faut qu'on arrive à faire une immigration choisie et que l'immigration délinquante, on la fasse repartir. Parce que après, nous allons... Et c'est ce qui se passe, c'est que ça facilite les choses en disant « l'immigration, c'est la délinquance ». Toute l'immigration n'est pas la délinquance, il faut en être... Mais c'est vrai que déjà, si on arrivait à faire respecter nos lois, à renvoyer chez eux des immigrés qui ne veulent pas s'intégrer ou qui sont là pour faire le contraire de ce qu'on espère en France... on ne peut pas continuer comme ça. Quand on voit effectivement un certain nombre de médecins, d'infirmières, etc., qui arrivent en France pour travailler, qui le font bien, je pense que ça montre qu'on peut s'intégrer. Alors, je vais aussi parler de l'intégration des Espagnols, même si... ou surtout des Italiens que je connais mieux, parce que mon grand-père a fait partie des gens qui ont fait venir des familles entières d'Italie.
Il y en avait beaucoup dans
le Gers, parce qu'on n'avait plus, effectivement, après la guerre de 14, de gens pour travailler les terres. Et ces Italiens se sont extrêmement bien intégrés. Moi, j'étais dans une école où il y avait quasiment que des Italiens, enfin, petits-fils et fils d'Italiens ou petits-fils d'Italiens. Et ça, c'est même si l'histoire dit qu'on les appelait macaroni. Moi, je n'ai pas le souvenir de les avoir appelés comme ça, mais bref.
Ça devait être Rital.
Ça, c'est le roman de Cavallo.
En soi, ils se sont extrêmement bien intégrés. Alors, le fait qu'ils soient aussi des Latins, ça a aidé. Et qu'on ait une culture à peu près commune, catholique, ça a aidé aussi. Mais il y a un moment où cette intégration peut la réussir. Mais moi, je reviens sur mon propos du départ. C'est que j'en ai marre. Parce que ce sujet-là, c'est depuis les années 81. Je crois que François Mitterrand a sa responsabilité et Valéry Giscard d'Estaing aussi la sienne. Et que depuis ce temps-là, on n'a pas réussi à intégrer. Et chaque fois, on nous dit oui, il faut ceci, il faut cela. Mais personne ne prend le sujet à bras le corps. Et même des gens que je soutiens, comme M. Retailleau, quand ils sont ministres, eh bien, ils ne font pas le job. Excusez-moi de le dire, mais je le vois comme ça.
Oui, en parlant de regroupement familial... Gérald Darmanin, parmi les nombreuses idées qu'il a lancées, il en a lancé une, je reprends ses mots, nous pourrions commencer par considérer que les titres de séjour délivrés pour le travail, ce qui est sans doute important dans certains secteurs d'activité, c'est ce que rappelait Pauline Albouy-Pomponne dans sa première intervention, eh bien que ça n'ouvre plus droit au regroupement familial. Vous pensez que c'est quelque chose qu'il faudrait faire, ça? Qu'on remette en cause, partiellement, le regroupement familial dans certaines circonstances, Pauline Albouy-Pomponne, où ça c'est intouchable.
Moi, je pense qu'il faut accueillir dignement. Il faut accueillir dignement les personnes. Donc, une infirmière qui vient travailler sur notre territoire, elle doit pouvoir avoir le droit d'emmener avec elle son compagnon, ses enfants.
À partir du moment où elle soit bien insérée.
Mais après, je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment un débat citoyen. C'est pas simple, c'est pas oui non. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à poser d'un point de vue du débat. de faire de la pédagogie, parce qu'il y a aussi beaucoup de fausses informations qui sont distillées, voire assénées par certains médias sur la réalité de l'immigration et de la richesse que ça peut aussi apporter à notre système économique et à notre société en général. Donc, moi je dirais pas oui, non. Enfin, je pense que ça peut se réfléchir. Ça fait partie des choses qui peuvent se réfléchir.
Peuvent être posées sur la table.
Il faut les poser sereinement, honnêtement, et en regardant l'ensemble des paramètres du problème.
Ce qui se passe en réalité, peut-être secteur par secteur aussi.
Oui, on peut avoir une immigration différenciée, des règles. En tout cas, il faut des règles claires et partagées.
Voilà. Mais prolonger le propos secteur par secteur, oui, ça peut être intéressant, encore une fois. Et là, c'est la vision économiste ou keynésienne qu'il faut évoquer. On a chacun, ou ricardienne, avec chacun son avantage comparatif. On le voit avec l'Algérie, avec le gaz, le pétrole, etc. etc. Il y a, bon, même si c'est compliqué, on le sait, mais il n'empêche, je parle d'Algérie, ça peut être le Maroc, ça peut être la Tunisie ou des pays d'Afrique noire. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi avoir cette vision. Dépasser cette vision, je n'ai pas utilisé colonialisme, mais de l'ancien temps, si vous voulez, et voir aussi le côté positif de l'immigration, et où les statistiques montrent, je le répète, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le MEDEF. Donc voilà, on ne peut pas dire que le MEDEF est à l'extrême gauche. Donc voilà, globalement. Donc il y a ce besoin-là. Là où je rejoins Jean-Baptiste, c'est vrai qu'il faut poser. Encore une fois, parce que la France a une histoire, parce que la France est fondée sur les valeurs de la République et l'histoire des Lumières, quoi, tout simplement. Il ne faut pas l'oublier, ça, le garder. Moi, si je fais de la politique, c'est pour ça. Je sais d'où je viens.
Et la France existait avant aussi.
Oui, hein. Oui, non, mais alors, je recule pas trop, mais bon, on va faire un cours d'histoire non plus. Mais je pense que les Lumières, c'est intéressant et ça éclaire. Bonjour, jeu de mots, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Les valeurs de Montesquieu, Rousseau, Diderot, etc. Mais en tout cas, les valeurs de la République, c'est quelque chose d'intouchable. Voilà. Et à partir de là, si en effet on voit des débordements, il faut poser des dispositifs. Alors, des dispositifs humanistes, voilà, qui posent que, en effet, si vous souhaitez vous intégrer, si vous êtes immigré, venir en France pour un projet professionnel, les valeurs sont les suivantes, etc. etc. Et c'est un contrat, tout simplement, un contrat républicain. Mais en fait, je l'ai souvent entendu ça, à chaque élection présidentielle, etc., mais ça ne s'est jamais fait, quasiment. Ou alors, ça s'est fait de façon très. Très légère, très épisodique.
Édulcoré,
voilà. Mais encore une fois, ça se fait en lien aussi avec les pays. Alors, lorsque les pays ne sont pas des dictatures exorbitantes, mais je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose à travailler à travers ces coopérations internationales et montrer à tout le monde qu'on a tous intérêt à ces échanges, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher aussi,
oui.
Tristement.
Alors, pour revenir au groupement familial, c'est marrant que vous parliez du MEDEF aujourd'hui qui dit que dans beaucoup de secteurs d'activité, on a besoin de main-d'œuvre immigrée. Je rappelle que le regroupement familial avait été demandé à l'époque par les grands patrons, notamment Francis Bouygues, en 74, à Valéry Giscard d'Estaing, et Jacques Chirac, alors, qui était son premier ministre.
Un peu avant, c'était Renault aussi.
C'est Bouygues qui avait vraiment fait pression pour que ça se fasse.
Moi, je voudrais rajouter aussi que la faute n'est pas que de notre côté. En ce moment, il se passe un bashing en Afrique, en particulier des dictateurs africains qui, sous le côté soutenu par les Russes ou par les Chinois,
oui,
qui sont en train de faire un bashing contre la France, alors que, effectivement, la France-Afrique de Giscard, de Mitterrand, etc., c'est terminé, mais qu'au contraire, cette France-Afrique, elle est indispensable dans le sens... je dirais actuel des choses, c'est-à-dire c'est pas dans le sens des valises de billets, vous me comprendrez bien. Et je crois que ce bashing qui est fait par certains dictateurs en Afrique est aussi un problème. Parce que, effectivement, on devrait créer des liens forts pour essayer d'aider dans les pays africains au développement, afin que, effectivement, que chez eux, ils puissent commencer à construire, à reconstruire un pays, à avoir des actions fortes pour développer l'économie, et que effectivement on puisse former des gens qui, à terme, pourraient venir dans des pays en Europe pour émigrer. Moi, la difficulté que je vois là-dedans, c'est que depuis des années, on le dit, mais que je reviens toujours sur le même problème, on a l'impression que nos gouvernants ne veulent pas prendre ce sujet
à
bras-le-corps. C'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a un moment où on ne va pas pouvoir continuer comme ça. On est en train de créer des tensions extrêmement fortes entre les Français par rapport à ça. L'amalgame est facile à faire sur les problèmes de, je dirais, de délinquance, ou en vous disant que, et c'est la réalité, là, il ne faut pas se le leurrer, que les prisons françaises sont remplies par une majorité de gens issus de l'immigration. Mais enfin, moi je suis catholique, je suis chrétien, je ne peux pas quand même dire que ce sentiment-là et que, effectivement, tout le sentiment d'insécurité n'est que porté par les gens de l'immigration. Mais il y a un moment aussi, il faut qu'on soit capable de gérer, de générer aussi, de faire une immigration qui soit choisie et suivie. Et ce n'est pas, je dirais, un problème de Rassemblement national, c'est un problème de nos gouvernants français.
Donc, pour terminer sur le sujet... Gérald Darmanin a déclaré que la question devrait être tranchée, la question sous-entendu d'immigration devrait être tranchée.
Il l'a pas fait quand il était ministre de l'Intérieur.
À la présidentielle. Alors, est-ce que ça veut dire que
non, mais c'est comme,
pour tous ceux qui vont se présenter, les candidats de cette présidentielle 2027, ils devront se positionner de façon claire sur le sujet, quelle que soit leur position d'ailleurs, mais ils ne pourront pas y couper. Pauline Alboui-Pomponne.
Je pense qu'il faudra avoir une vision hein, sur ce sujet. Lui parle de référendum. Moi, je trouve ça très simpliste,
oui,
le référendum.
Oui, il a parlé, effectivement, qu'il ne serait pas contre, en tout cas.
Nous, chez Place Publique, c'est ce que Raphaël Glucksmann a exprimé dans les médias ces jours-ci, on est plutôt pour une convention citoyenne, pour un débat approfondi qui permet de dialoguer avec l'ensemble des partis, les policiers, effectivement, prendre en compte aussi la dimension sécuritaire, la justice,
les
employeurs,
les
personnes issues de l'immigration, comment aussi elles ont vécu leur accueil, leur intégration. Donc on est plutôt sur cette proposition-là de convention citoyenne avec débat au Parlement derrière, évidemment, hein, pas à la Macron, pour prendre en compte la complexité de ce débat-là. Et je pense qu'il faut avoir une réponse sincère et pas, encore une fois, pas populiste, hein, et qui prenne la mesure. Voilà.
Jean-Baptiste Scorail.
Pourquoi un référendum? Enfin, ils ont peur de prendre des décisions. Il y a un moment, c'est les Français, on aura le bol. Est-ce qu'ils vont sur le terrain? Moi, je vais sur le terrain. Que ce soit des gens de droite ou de gauche, les gens en auront le bol du problème de l'immigration.
À chaque fois qu'il y a un sondage qui sort sur la question migratoire, on voit effectivement que il y a des attentes
pour qu'il y ait
des décisions fortes qui soient prises.
Il n'y a pas besoin de faire un référendum. Les Français veulent que leurs hommes politiques prennent le problème à bras-le-corps. Mais pour ça, qu'on s'y mette. Je ne vois pas pourquoi on attendra un référendum. Ça fait une élection de plus, alors qu'on sait très bien que la question, elle sera, êtes-vous très simpliste, êtes-vous pour l'immigration, choisis ou je ne sais pas quoi. On répondra par oui ou par non. Et ça va être un carnage parce qu'on dira 80% des gens vont dire qu'ils vont répondre favorablement. Donc, à quoi ça sert de faire un référendum? À rien. Je crois qu'il faut faire des actions sereinement. Hein, et ce que j'entends de mes collègues m'intéresse, et je crois qu'ils ont plus à venir vers la droite centriste plutôt que vers la gauche. Mais ça, c'est une boutade.
Un
appel du pied. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de faire un référendum. Il faut maintenant mettre ça, par une proposition de loi ou par un projet de loi. Mais il va falloir que quand même, on n'a pas besoin de faire un référendum et avancer. Et je redis encore que quand il était ministre, M. Darmanin avait les pouvoirs de le faire, il n'a pas fait grand-chose.
On a bien compris. Mohamed Mafri, pour terminer.
Je bâche ce soir.
Ce qui est inquiétant, si on pose les faits aujourd'hui, on a deux mouvements auxquels j'adhère absolument pas, bien sûr. LFI d'un côté qui est carré sur ce sujet-là. Voilà.
Oui, c'est vrai. Ils disent clairement.
La politique, c'est dire aussi les choses honnêtement.
Oui,
c'est pas mentir. Mais même si je n'adhère absolument pas à LFI, vous le savez.
C'est vrai que ceux qui voteront pour eux, ils savent.
Voilà,
quoi
ils
ça
savent très bien. Société créolisée, communautarisée, à l'anglaise. Voilà. Ça, c'est carré.
On voit le problème en Angleterre maintenant.
Non, mais voilà, c'est posé. Le côté, côté RN. Ils n'ont pas changé aussi de ligne de conduite, encore que parfois j'arrive pas à les saisir. J'arrive pas très bien
ça
à les saisir.
Qui s'exprime.
Je vois M. Bardella je comprends pas, mais il n'empêche, voilà. En tout cas, ça reste dans la continuité de l'héritage Le Pen, etc., etc. Maintenant, moi, à qui j'en veux après à tout le reste. Jean-Baptiste l'a dit, il a cité un ministre en l'occurrence qui a voyagé et qui n'a pas fait. Voilà, et même s'il a été réélu, hein, mais il n'a pas fait, et il réitère encore une fois des propositions ou des poncifs pour moi, hein, voilà, mais sans encore une fois dispositif concret.
Vous parlez de qui là?
Ben, c'est le cas de M. Darmanin.
Vous parlez voilà, de Darmanin.
Mais on peut le
je crois qu'il y en a d'autres. Je déforme mon candidat, mais je pense que le travail n'a pas été fait quand.
Voilà. Ça, quant à la gauche, je vais un peu attrister. Moi, je la cherche, je la trouve pas. Hein, donc voilà, bon, je l'avoue. Voilà, je suis orphelin, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. C'était Arnaud Montebourg qui disait ça, qui était orphelin.
Ah ben Arnaud, c'est incroyable.
Orphelin. Alors voilà. Mais là, pareil, j'ai essayé de trouver cette gauche. Chevènementiste qui n'existe pas, qui n'est pas là et qui est absente et qui est aspiré par LFI comme le RN aspire un peu les Républicains.
Non, mais une partie, moi. Ouais, ça, c'est...
Bon, on ne va pas pousser plus loin nos échanges sur ce premier sujet, même si on pourrait le faire, bien sûr. Je pense que de toute façon, il reviendra au sommaire de cette émission. C'est le moment de faire la pause avant de nous retrouver rapidement dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour à l'antenne avec les trois invités de ce numéro, Pauline Albouy-Pomponne, élue municipale à Lavaur, référente Occitanie du parti Place Publique, Mohamed Mafri, ex-adjoint à la mairie de Blagnac, président du think tank Blagnac Politique Café, et Jean-Baptiste Oscorail, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du parti Les Républicains. Il y a une semaine, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de simplification de la vie économique. Il était notamment attendu sur l'article 37 de cette loi, qui consistait à mettre fin au dispositif des ZFE, les zones à faible émission, sur l'ensemble du territoire français. Cet article a été jugé inconstitutionnel et la décision a été motivée par un motif de procédure et non parce que le contenu de l'article serait contraire aux droits fondamentaux. La censure ne porte donc pas sur le fond, ce qui implique que la suppression des ZFE n'est pas inconstitutionnelle en elle-même. Toujours est-il que concrètement, dans l'état actuel du droit, cela signifie que le cadre légal des ZFE est intact et par conséquent que celle-ci reste en vigueur. Est-ce que vous vous attendiez à ce verdict de la part du Conseil constitutionnel et est-ce que vous vous réjouissez ou pas du maintien des ZFE? Tiens, on va commencer avec Jean-Baptiste de Scorail.
Moi, je commence à en avoir marre. Alors, je respecte le Conseil constitutionnel, mais enfin, il y a un moment où ça va. Alors là, heureusement, ce n'est qu'un problème technique. Ils n'ont pas remis en cause les ZFE. Mais nous, à Toulouse, on a été capable de se remettre en question. La ZFE était obligatoire, on a travaillé, etc. Il y a eu des positions qui ont été prises. Mais on s'est rendu compte que le français de base était complètement largué par rapport à la ZFE. Le gars qui a une voiture et qui n'a pas les moyens de s'en payer une, il n'avait plus le droit de rentrer en ville. Non, mais enfin, on marche sur la tête. Il y a un moment où on veut être plus royaliste que le roi. Moi, je suis d'accord pour que, effectivement, on lutte et qu'on travaille pour le réchauffement climatique, pour qu'il y ait moins de pollution, etc. Mais enfin, il faut aussi regarder que les Français ont le droit de vivre. Et ce problème de ZFE entraînait des inégalités totales entre les Français et entre les villes aussi. Donc il y a un moment où ça suffit. Nous, effectivement, on devait mettre en place ces ZFE et on a pris une décision de ne pas le faire parce qu'on s'est rendu compte que les Toulousains, on ne pouvait pas les laisser de côté, on ne pouvait pas partager ou couper la Toulouse en deux avec des gens qui avaient les moyens d'avoir des véhicules propres et des gens qui, malheureusement, n'avaient pas le moyen de changer de voiture. Donc l'attitude du Conseil constitutionnel technique, bon, ben ça, je pense qu'on la réglera. Heureusement, ils n'ont pas été dire que c'était inconstitutionnel, parce que dans ce cas-là, on n'avance plus. Et je crois que tous ces services de l'État sont là aussi pour protéger les Français. Et d'une certaine façon, quand on voit des actions comme ça, ça énerve plutôt que ça protège.
Mohamed Mafri, sur ce sujet, donc, la ZFE. Et les ZFE et de la décision du rendu par Conseil constitutionnel.
Il y a le fond et la forme. Sur le Conseil constitutionnel, je vais paraphraser un peu Jean-Baptiste, mais sur la forme, on a une stratégie politicienne aussi derrière. Il faut rappeler que derrière, c'est Richard Ferrand qui est président du Conseil constitutionnel, de nombreux lieutenants qui aussi voient aussi que
s'accapare au fur et à mesure ce sujet, la partie scientiste, RN, etc., écologiste, et on voit bien que ce sujet-là, il commence à dépasser un petit peu les parties dites traditionnelles aussi. Donc là, sur la forme, un stop, parce que c'est tout un ensemble, hein, Modem, Renaissance, etc., qui politiquement se sont opposés. Sur le fond, bon, là, pareil, sur la ZFE, qui a pu pondre ça sans avoir réfléchi un petit peu en amont? Allez, alors je vais prendre la ville de Toulouse, ça sera plus simple comme ça. Si vous allez au Mireille, dans les quartiers politiques de la ville, vous allez au Mireille, vous allez aux Isards, vous allez en Palo, vous parlez de ZFE, ils vous rironnez. Le salaire médian, c'est 1 000 euros. Un véhicule propre, c'est 25 000 euros, minimum. Et encore, je suis gentil, avec les aides, etc., etc. Donc, ne leur parlez pas des ZFE. Ils ont la double peine, déjà, d'avoir des... Alors, même si en matière de logement, ça s'est beaucoup amélioré, mais je vous parle du passe du thermique, etc., etc., mais avec ces chaleurs, etc., etc. Cette écologie-là, cette vision de l'écologie, pour moi, l'écologie, elle n'est pas politique. Voilà. Et si elle était politique, ça se saurait. Avec ces canicules, etc., on devrait avoir des partis écologistes à 40-30%. Ils n'y sont pas parce que, tout simplement, ils ne font pas de l'écologie. Voilà. Bon, vous avez compris que je j'apprécie pas trop ce
moment. Mohamed, reviens vers la maison.
Donc, mais l'écologie, elle, c'est comme l'immigration.
L'écologie n'est pas un problème politique, c'est le problème de tout le monde.
Ça doit dépasser le cadre politique. On est d'accord. Pour revenir sur l'immigration tout à l'heure, j'ai vu des villes, moi, où des gens ici de l'immigration ne votaient pas qu'à gauche. C'est quoi c'est quoi cette idée-là que LFI voudrait imposer, que lorsque vous êtes issu de l'immigration, vous devez voter à gauche, voire à l'extrême gauche? Voilà, on est en démocratie, on est en France. Voilà, allez à Béziers, vous allez voir dans les quartiers populaires. Robert Ménard, enfin moi je suis pas un fan de lui personnellement, mais il n'empêche, la réalité est la suivante. Dans les quartiers populaires, beaucoup ont voté Robert Ménard. Et dans les quartiers populaires, il n'y a pas que des Pierre, Paul, Jacques. Voilà, chose soit claire. Voilà, ça s'appelle la réalité et être factuel aussi. Donc pour revenir à l'écologie, dont les couches populaires en ont besoin, d'ailleurs, comme le sujet de la sécurité. L'écologie, la priorité, ce serait les couches populaires qui en auraient plus besoin parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. C'est pas eux qui vont voyager 4 fois dans l'année. Voilà. Et puis, en termes de mobilité, en effet, ils disposent la plupart de voitures thermiques qui finissent leur cycle de vie. Et si, en effet, la ZFE, si on l'applique comme elle l'est actuellement, ils sont victimes d'une double peine. Donc, il faut revoir cette réflexion-là, écologique, avec des priorités à caractère social, avec l'accessibilité d'être dans la dynamique écologique, parce que le développement durable, il appartient à toutes et à tous, et que c'est un bien-être comme la santé, comme la sécurité. Voilà. Voilà ce que je veux dire.
Pauline Apouy-Pomponne, vous ne serez peut-être pas tout à fait d'accord avec nos deux premiers intervenants sur ce sujet.
Non, pas tout à fait, mais je les rejoins. Pour moi, ce sujet, il est très symptomatique, hein, de tout ce qu'Emmanuel Macron a raté sur son mandat. Et notamment en termes de transition écologique. C'est un bon concept, la ZFE, de dire qu'on va réduire la pollution.
L'idée, voilà.
C'est,
oui, parce que
l'État qui protège.
Non, le fait qu'effectivement,
l'objectif est vertueux.
Quelque chose pour améliorer la qualité de l'air.
Ceci dit, il n'a pas été pensé, il n'y a pas d'accompagnement pour que les gens... Il faut de toute façon passer du thermique à l'électrique aujourd'hui, pour des raisons, ne serait-ce que de pouvoir d'achat. Il n'y a pas eu d'argent magique, comme il a dit Emmanuel Macron, pour ces sujets-là, pour faire du leasing social, pour que nos infirmières de campagne qui font des tournées puissent se déplacer à moindre coût énergétique et à moindre coût pour leur porte-monnaie aussi, pour retrouver aussi un peu d'autonomie et de souveraineté énergétique. Ça,
Le problème aussi, c'est que Macron et François Hollande ont fermé les centrales nucléaires, qui a été une erreur et une bêtise. Donc, il y a un moment sous pression des écologistes, résultat des courses, on est coincé.
Oui, mais on est quand même encore en surproduction électrique. Donc, voilà.
Oui,
on a restauré. Oui, les capacités ont été restaurées. Il y a
sauf
eu
que
une
le coût électrique est basé sur une norme européenne et qui coûte énormément aux Français. Quoi. Et oui, mais ça en fait partie aussi.
Ça, c'est un autre sujet, mais quand même, aujourd'hui, on sait que se déplacer en voiture électrique, c'est quand même beaucoup moins cher que de faire le plein de gasoil. Donc pour moi c'est très symptomatique. On a le même sujet avec le ZAN, hein, le zéro artificialisation nette, qui est un très bon objectif aussi, très vertueux, mais on n'a pas révolutionné la façon de notamment donner les finances aux communes pour que quelqu'un qui vient de un maire qui vient de s'engager sur un assainissement collectif par exemple ait les moyens de rentabiliser son investissement et de l'offrir.
Ce sera un sujet important dans lequel on va discuter.
Il faut, ouais, exactement, mais c'est encore une fois des sujets pour moi, très symptomatique, où on a posé des objectifs comme ça, là, paf, paf, et on n'a pas pensé du tout l'accompagnement. Donc, effectivement, moi, je suis pas d'accord avec eux. Les NFE, il y en a plein dans plein de pays d'Europe et qui ne posent pas les problèmes qu'elles posent en France. Mais on doit vraiment se poser la question de comment l'État accompagne cette transition, et notamment auprès des personnes qui en ont le plus besoin, ceux qui se déplacent pour aller travailler tous les jours, qui ont besoin d'un
oui, puis ceux qui viennent de l'extérieur, de la périphérie, enfin qui sont à la périphérie, qui ne sont pas à Toulouse, qui viennent travailler à Toulouse.
De transport en commun.
Voilà. Ils sont obligés de prendre la voiture,
tu n'as pas le métro,
ils
n'ont
pas les moyens d'acheter une voiture. J'ai
le train. Il y a le train.
J'ai le train. Moi, je viens travailler.
Quand il est à l'heure, quand il y a un conducteur,
quand il y a un train de retour. C'est
quand
tu es
en train de retour.
Voilà.
Non, mais c'est. Non,
c'est une réalité.
Non, mais mon assistante a le même problème. C'est qu'elle a été obligée, elle, de déménager à Saint-Sulpice, parce qu'elle n'avait plus le moyen d'habiter à Toulouse. Donc la voiture, ben, elle prend le train. Mais encore faut-il que le train fonctionne. Encore faut-il qu'il y ait un conducteur. Donc je crois qu'il
encore
y a.
Encore qu'à Saint-Sulpice.
Oui, mais il y a
quand
même des
problèmes. C'est le ferroviaire qui travaille, qui oui. fonctionne le mieux oui. de toute oui. la périphérie toulousaine.
Oui, sauf que systématiquement, au moins une fois par semaine, elle arrive à la gare et le train est supprimé. Oui. Voilà.
Je sais.
Alors, je voudrais revenir, au-delà de du bien fondé ou pas des ZFE, et de la difficulté à les mettre en place pour les collectivités qui sont concernées. Après cette décision du Conseil constitutionnel, une fois de plus, ce n'est pas la première fois, il y a des élus, des politologues, des juristes qui estiment que cette institution a aujourd'hui un pouvoir trop important sur les décisions et les votes, les lois qui sont proposées par le Parlement, qu'aujourd'hui le Conseil constitutionnel et son pouvoir sont sans commune mesure avec le rôle qui lui avait été assigné au départ par la Constitution de la Ve République lors de la création de l'institution Conseil constitutionnel en octobre 58. Il y en a même certains qui demandent à ce qu'on supprime le Conseil constitutionnel. Quelle est votre position sur le sujet ? Jean-Baptiste Scorail.
Moi, je trouve que non, il ne faut pas le supprimer. Le problème, c'est que ce Conseil constitutionnel a été dévoyé par un certain nombre de présidents de la République. Alors, je ne sais plus pas lequel a commencé. Mais les choix. Bah, non, sauf que les gens qui étaient nommés. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les gens qui avaient été nommés avaient quand même une certaine vision de l'État. Et d'être, je dirais, de manière réglo, et de mettre en application, en respectant effectivement ce qu'avait voulu le général de Gaulle, et les lois, etc. Et on est passé de cet état-là à un état politique, c'est-à-dire on va mettre des gens qui n'avaient pas quand même... Enfin, pour aller au Conseil constitutionnel, il fallait quand même être... Il faut être clean. Bon, je dirais que le président actuellement... Je ne donne pas de nom, mais le président actuel, je crois, avait quand même des choses un peu bizarres. Mais ce n'est pas le seul. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, déjà, quand on montre aux Français des signes comme ça et qu'on place... C'est valable pour tous les présidents depuis quelques années. Des gens de son propre parti qui n'ont pas une vision... je dirais, de l'intérêt général, qui ont une vision politique, on arrive à ce résultat, qui est pour moi catastrophique, alors que le Conseil constitutionnel est quelque chose qui doit garantir, garantir la Constitution française. Et ce n'est plus le cas actuellement.
Et la constitutionnalité des lois qui sont
entre autres,
votées.
Voilà.
Mohamed Mafri.
Pour prolonger le propos de Jean-Baptiste, c'est vrai que si on prend le cas d'Emmanuel Macron, hein, de le dernier président, pour qui j'ai voté en 2017, je me dis quand même, c'est vrai qu'on aurait espéré, parce qu'il est jeune, parce que bon, on attendait beaucoup, une révolution, etc. D'ailleurs son, ouais. C'était le nom de son livre, Révolution. L'idée, c'était que même dans le fléchage et même dans le comportement politico-politicard, ça change aussi. Voilà, et c'est vrai qu'il avait une occasion énorme d'envoyer un message
fort. Oui, on allait faire de la politique
autrement. Je vais rafraîchir le Conseil constitutionnel un petit peu. Il avait cette opportunité-là. Il ne l'a pas fait.
Ouais.
Voilà pour ça. Après, moi je rejoins Jean-Baptiste, mais je pense qu'on a besoin d'un Conseil constitutionnel parce que je trouve que le fonctionnement de la Ve République, et honneur à M. Debré, il est intéressant, même s'il vieillit un peu, mais il mûrit, il est comme un bon vin, il vieillit parce qu'on a des garde-fous.
Il n'y a pas besoin de la changer. Si on l'applique correctement,
il y a déjà
pas
eu des changements depuis 58.
Il y a des garde-fous. Ça oblige à des réflexions, ça oblige à des débats, comme ce soir. Ça oblige aussi à voir aussi, avec les basculements à chaque échéance électorale, on a aussi un conseil constitutionnel, même si lentement il bouge un petit peu, il change aussi en termes de RH. Mais je trouve que moi, je trouve que l'organisation démocratique, elle n'est pas trop à bouger. Le Conseil constitutionnel a sa place.
Mais est-ce qu'il faudrait revoir, peut-être par contre, ça c'est ce que demandent d'autres qui critiquent, la façon dont sont désignés les membres du Conseil constitutionnel, parce qu'il y en a qui remettent en cause les compétences des gens qui y sont nommés, et aussi, comme l'a dit Jean-Baptiste Scorail, leur impartialité sur le plan politique.
C'est pour ça que je crois qu'il faut avoir des gens qui ont l'intérêt général, et pas l'intérêt particulier de leur parti politique.
Comment on les désigne ? La question, c'est ça, comment on les désigne ?
Jusqu'à un certain temps, ça fonctionnait bien. Ça veut dire qu'on avait des élus qui étaient au-dessus de ce qu'ils représentaient. Mais le problème, c'est ça. C'est que vous avez des élus qui travaillent pour l'intérêt général et vous avez la...
On n'a plus de serviteurs de l'État, comme on disait avant.
Non, de grands serviteurs de l'État.
Je vois mal après un système électoral pour élire...
Sans parler de système électoral. Qui les propose ? La question, ce serait qui les propose ?
Moi, je crois à la collégialité, en fait.
Allez-y, Pauline. Prononcez-vous sur la question que je vais poser.
Non, pour le coup, il a joué son rôle, le Conseil constitutionnel. C'était vraiment un cavalier législatif et c'était quelque chose aussi de très populiste posé par l'aile droite du Parlement. Hein. Donc la décision, elle est, à mon sens, là, incontestable et pas politique. Mais c'est vrai qu'il y a certaines dérives. Et moi, je crois à la décision collégiale, ouais, pour peut-être un alignement. Donc, Parlement, Sénat.
Pour qu'on maintienne, évidemment, le Conseil constitutionnel, il ne s'agit pas de
supprimer.
Ah oui,
non, mais je suis d'accord. Il faut des garde-fous dans la République.
Mais sur la façon dont on désigne ses membres. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?
Moi, je pense qu'une décision collégiale, oui, d'amener...
Vous mettez qui dans ce collège ?
Au moins, Assemblée, Sénat, gouvernement, enfin, voilà.
Pourquoi, que ce soit le Parlement qui désigne les membres, c'est-à-dire
le Parlement représente le peuple. Enfin, ça me semble.
Mais c'est le cas puisque le président du Sénat désigne, le président de l'Assemblée nationale désigne. Donc, il faut surtout que les candidats se disent maintenant, je suis au-dessus de mon parti et je suis là pour défendre les intérêts de la France.
Il faut un garde-fou dans, au fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Et il faut avoir aussi des compétences. C'est que c'est vrai que pour être au conseil constitutionnel, c'est bien quand même d'avoir été juriste plutôt que
Très bien la constitution commerciale. C'est pas forcément le cas de tous nos élus. Je vais pas faire une interrogation.
C'est bien pour ça que je ne serai jamais candidat au conseil constitutionnel parce que j'ai fait, comme disait Coluche, un an de droit tout le reste de travers. Et donc c'est pas avec ses compétences. Alors je sais pas ce qu'a comme compétence Richard Ferrand. Je ne crois pas qu'il soit juriste. Ça me choque un petit peu. Bon, quand on avait effectivement des gens, je crois que autant de même de Valéry Giscard d'Estaing, c'était quand même des grosses pointures.
Bon, on va en rester là pour ce second débat. Il est probable que le feuilleton de la mise en place des aides-feux, en revanche, lui, se poursuive. On en reparlera sans doute là aussi dans cette émission. Nous avons un peu de temps, pour une fois, avant de conclure cette émission, assez pour que vous puissiez partager avec nos auditeurs vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment. Pauline Alboui-Pomponne, je suis sûr que vous avez réfléchi à cette question.
Mais c'est très facile pour moi, en fait.
Alors, allez-y.
parce qu'on est dans une séquence politique très importante pour nous, hein, pour Place Publique. On a... la sortie du livre de Raphaël Glucksmann aujourd'hui même. Voilà. Nous avons encore envie, je vous invite à le lire. Il est passionnant et il est plein de propositions qui méritent d'être partagées et mises sur la place publique. C'était pas préparé.
Quel est le titre du livre ?
Nous avons encore envie. Voilà. Et ça démontre plein de choses, dont des messages que j'ai portés ce soir, évidemment, puisque c'est le fruit d'un travail collectif que nous avons mené avec plus de 1000 personnes qui travaillent sur le projet et que Raphaël Glucksmann s'est approprié. Après, il y a mis sa patte et sa touche personnelle, évidemment. L'info, c'est le grand meeting du 13 juin au Doc d'Aubervilliers pour partager, se retrouver. Et lancer 3 mois intenses sur le terrain.
Et passé. Mohamed Mafri, un coup de gueule ou un coup de cœur ?
Alors, le coup de gueule, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réaction de nombreux journalistes, tristement, qui se disent de gauche, mais qui ne le sont pas, sur la critique du film L'Abandon. Voilà. Que j'invite beaucoup de monde à aller voir, notamment les enseignants. Pas que les enseignants, d'ailleurs, beaucoup. C'est super bien joué, c'est bien fait, c'est bien argumenté. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, et presque un peu un coup de cœur aussi en passant. Voilà. Pour le coup de cœur, en fait,
Moi, j'invite. Je suis un passionné de cinéma, hein. Donc deux beaux films à citer. Alors, un qui est sorti, mais qui j'aurais espéré qu'il ait plus d'audience, c'est le film de Xavier Giannoli, Les Rayons et les Ombres, sous la collaboration et un extraordinaire. Pourtant, je suis pas fan de lui, et là vraiment, il m'a épaté. Jean Dujardin, un très très bon acteur et un très beau film où vous allez pouvoir vous cultiver.
Alors, le film est sorti il y a quelques temps.
Voilà, mais... exactement.
Ouais, il y en a un autre apparemment.
Oui, il y en a un autre. Ça y est, ah, trop de mémoire. Alors, attendez, lequel dont je voulais.
Ah, je vais pas pouvoir vous aider là.
Non, j'ai pas.
Bon, écoutez, ça vous reviendra. On va.
Voilà, ça reviendra. Voilà.
Baptiste de Scorail.
Bah, deux choses complètement différentes. Un coup de gueule pour la voiture de la maman de. Je crois que c'était Naël qui a été encore pris en chasse et qui n'a refusé de s'arrêter. Donc moi, ça me pose quand même un problème réel. Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais je crois que quand même certaines personnes auraient dû se taire au moment de ces événements malheureux. Et par contre, mon coup de cœur, c'est dans le cadre de mes fonctions, j'ai signé un permis de construire pour quelque chose que je ne connaissais pas, qui est un agrandissement d'un lieu qui accueille à Toulouse les SDF en fin de vie. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et en fait, dans les satellites de Purpan, vous avez un lieu qui accueille effectivement les SDF en fin de vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Bien, merci d'avoir partagé cette information avec nous. C'est la fin de cette 231e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Merci également à Yannick Galupini qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.